brisure dans ma nuit, peur éclatée, mort déchirée, possible d'amour, brèche d'espérance, espace de naissance, accueil d'étonnement, semence de liberté, éblouissement de joie. Ce matin, dans le jardin, la pierre qui fermait le tombeau était ouverte, ôtée, la tombe était vide, le Seigneur n'y était plus. Nouvelle étonnante, nouvelle bouleversante. Jésus est ressuscité, le Christ est vivant. Que cette bonne nouvelle réjouisse nos cœurs ce matin et nos vies tout au long de nos jours. Que la paix de notre Seigneur soit avec chacun de nous. Bienvenue à chacun, chacune, pour ce culte qui nous rassemble. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet, ensemble, pour célébrer le Seigneur. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Seigneur Christ ressuscité, gloire à toi. Tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as fait découvrir ton amour. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Tu es le Fils de Dieu et tu es un homme semblable à nous. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Tu vis maintenant avec nous. Parfois nous l'ignorons, parfois nous te reconnaissons. Tu es là et tu partages notre vie. Seigneur Christ, ressuscité, gloire à toi. Nous voulons vivre dans ton amour. Seigneur, puisque tu es là, nous voulons vivre avec toi. Seigneur Christ, ressuscité, gloire à toi. Alléluia. Et nous poursuivons en chantant « Le Sauveur est ressuscité ».
Thank you.
Nous prions. À l'aube profonde, une femme arrive au tombeau, comme on arrive pour l'enterrement d'une espérance. Dans son cœur, les souvenirs ont déjà goût de cendre. On pense rarement au futur dans les cimetières. Mais voici qu'au bord du tombeau, la pierre du passé a roulé loin de la mort. Dans le roc de ses larmes, une faille s'ouvre dont elle ne sait pas que faire. Il faut du temps pour apprivoiser la résurrection. Et c'est alors qu'au plus profond de sa nuit, une parole neuve et claire la rejoint. La fin devient un commencement. La vie lui ouvre un lendemain. Seigneur, toi qui te tiens au seuil des tombeaux où nous nous enfermons, donne-nous de déposer à terre les larmes de notre désespérance. Que ta parole réveille en nous aujourd'hui ce qui est retenu dans la mort. Christ, Seigneur, tu es le vivant et tu nous parles de vivre. Entraîne-nous dans ta vie. Amen. Matin de Pâques, tombeau vide, avenir ouvert. Ce matin, mes amis, c'est le matin du passage. Jésus le Christ, le vivant, nous ouvre le passage vers la vie. Avec lui, nous passons du néant à l'existence. Nous passons du silence à la parole, du bruit à la musique. Nous passons de l'inertie au souffle. Du chaos à l'harmonie, de l'ombre à la clarté. Nous passons de la famine à l'apaisement, de l'esclavage à la liberté, de la tombe à l'éblouissement, du doute à la foi. Nous passons du cœur de pierre au cœur de tendresse. Oui, ce matin, mes amis, est le matin des merveilleux passages. Ce matin, nous célébrons notre condition d'homme et de femme appelés à la vie. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour chanter « Mon Rédempteur est vivant ».
Thank you.
Jésus. Il est ressuscité. Il s'est montré à des femmes et à des hommes. Il leur a apporté la joie. Il est vivant. Alléluia. Je crois en Jésus. Il est ressuscité. Il a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle de son amour dans le monde entier. Il est vivant. Alléluia. Je crois en Jésus. Il est ressuscité. Il a donné l'Esprit à son Église. Il est vivant. Alléluia. Je crois en Jésus. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il nous promet la résurrection. Il est vivant. Alléluia. Je crois en Jésus. Il est ressuscité. Il vit avec nous. Il change notre vie par sa présence et son amour. Il est vivant. Alléluia. Je crois en Jésus. Il est ressuscité. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il est vivant. Alléluia. Je vous invite à poursuivre cette confession de foi en chantant ensemble « Le Sauveur est ressuscité ». Avant d'ouvrir l'Écriture et de lire dans l'Évangile de Jean le récit du matin de Pâques, je vous invite à prier. Seigneur, tu te souviens sûrement de son visage, cette première née de la nouvelle terre, de la nouvelle vie. Depuis 3 jours, elle était morte. Elle t'avait vu clouée sur la porte noire de la mort, comme l'oiseau pantelant dont les imbéciles ont peur. Elle voulait croire que tu vivais ailleurs, mais sa vie à elle était en instance de sépulture. Seigneur, tu te souviens sûrement de son visage de cire et de ses gestes d'automate. Elle qui t'aimait et dont le cœur avait cessé de battre un vendredi à 3 heures. Ce matin-là, ce dimanche, dès l'aube vive, elle montait en traînant les pieds pour entretenir déjà ton souvenir. Mais tu avais brisé l'ordre des choses. Ton père t'avait enlevé du tombeau. Ton absence de la mort l'a fait courir, celle-là qui t'aimait, Jamais elle n'avait tant couru, comme un nouveau-né qui remue en tous sens pour éprouver la vie. La voilà qui va vers les autres. Seigneur, tu te souviens sûrement de son visage, cette première née de la nouvelle alliance, Marie de Magdala, aux yeux brillants de larmes, blanche de peur, mais brûlante d'espérance. Son visage est le premier de tous ceux qui, depuis 2000 ans, ont été bouleversés par ta victoire sur la mort. Jour après jour, c'est une nouvelle Pâque pour ceux qui te rencontrent, qui naissent à la vie et trouvent le sens de leur route. Seigneur, tu te souviens sûrement de son visage. Seigneur, que nos visages soient une éternelle offrande à ta gloire. Toi, Jésus-Christ, le vivant, que ton évangile illumine nos vies. Que le récit de l'évangile que nous allons lire maintenant soit ta parole pour nous. Que ton esprit inspire notre écoute. Amen.
Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau et elle courut alors pour trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et il vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part et à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris que l'Écriture qui annonçait que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Et tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges, en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu ?» Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?» Elle pensa que c'était le jardinier, et c'est pour ça qu'elle lui répondit « C'est toi qui l'as emporté. Dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Puis Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça « J'ai vu le Seigneur » et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit.
Qu'êtes-vous venu chercher dans ce temple ce matin? Est-ce que vous êtes venu pour l'accomplissement d'un rite, le culte de Pâques qui chaque année nous met un peu de baume au cœur parce qu'il coïncide avec le printemps qui revient? Ou bien êtes-vous venu chercher un discours qui enfin va apporter les preuves de ce que des chrétiens confessent depuis 2000 ans, mais que notre rationalité a de la peine à admettre, Jésus qui était mort et enterré est revenu à la vie. Alors si vous êtes venu pour accomplir un rite ou bien écouter un discours rationnel, ce n'est pas ça qui nous attend ce matin. Ce qui nous attend ce matin, c'est un récit tout simple. Ce que nous venons d'entendre, c'est une rencontre, c'est un dialogue. Et c'est bien plus essentiel qu'un rite ou qu'un discours. C'est l'histoire de Marie de Magdala, c'est notre histoire, à chacun, chacune de nous. Marie de Magdala, qu'on appelle aussi parfois Marie-Madeleine, Marie est une femme qui est originaire d'un village qui s'appelle Magdala. C'est une petite ville qui est au bord du lac de Galilée. C'est une femme qui souffrait d'une grande souffrance et que Jésus a libérée et qui depuis suivait Jésus avec d'autres femmes, avec les disciples. Elle était présente au pied de la croix. Elle a assisté à la mise au tombeau de Jésus. Et puis, en ce matin de Pâques, elle est la première personne qui vient à la tombe de Jésus. Elle est la première qui découvre le tombeau vide. Alors elle est surprise, elle est bousculée par ce phénomène étrange, elle ne sait pas quoi en penser. Alors elle va trouver dans son désarroi deux disciples, Simon-Pierre et un autre disciple dont on ne sait pas le nom, mais dont la tradition nous dit que c'est Jean. Mais ceux-ci ne lui adressent pas la parole. Ils la laissent toute seule, ils vont eux-mêmes vérifier au tombeau. Et puis, quand ils ont compris que le Christ est ressuscité, ils gardent cette nouvelle pour eux, ils rentrent chez eux. Ils ne vont même pas trouver Marie de Magdala. Elle reste toute seule avec ses larmes et son désarroi. Elle retourne au tombeau, elle est complètement déboussolée. Elle est très triste, elle pleure beaucoup, le verbe pleurer revient 4 fois. En 5 versets. Elle pleure parce que Jésus est mort, beaucoup de souffrance pour elle, et puis le corps n'est plus là, Elle ne peut même pas accomplir un rite qui serait de venir régulièrement se recueillir auprès d'une tombe. Ça n'a plus de sens puisque le corps n'y est plus. Et puis aucun discours ne peut lui permettre de comprendre ce qui vient de se passer. Même la présence de deux anges, deux messagers de Dieu qui sont là dans le tombeau. Rien n'y fait, elle est toute seule, elle est perdue. Et pourtant, elle va être la première qui va rencontrer le ressuscité. Elle va se trouver face à face avec lui et ils vont dialoguer. Et ce dialogue est un dialogue comme un dialogue de foi. C'est un dialogue en trois temps, comme trois moments sur le chemin d'une vie, comme trois temps sur le chemin de notre foi. Premier temps, une rencontre. Elle est dans le jardin, devant la tombe ouverte et vide, elle est désemparée, elle pleure. Il y a bien deux messagers de Dieu qui sont là et qui lui parlent, mais pour elle, ça n'a pas de sens. Elle les voit bien, elle les entend, mais elle ne comprend pas ce qui se passe et ce qu'ils leur disent. Parfois, la parole de Dieu, parfois des messagers de Dieu peuvent nous parler, mais ça n'a pas de sens pour nous. On ne comprend pas ce que ça veut dire, tellement on est pris dans la douleur de vivre. Alors elle se retourne. Et là, Jésus est là, tout près d'elle. Elle le voit. Elle est face à face avec lui. Elle le voit, mais elle ne le reconnaît pas. C'est comme dans l'évangile de Luc, les disciples, le soir de Pâques, sur le chemin d'Emmaüs, qui cheminent avec le Christ ressuscité, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est souvent comme ça, la foi. Ça ne se donne pas comme une évidence. Il n'y a pas une preuve objective. Ce n'est pas une affaire facile que de croire en Christ ressuscité. Et cet homme, qu'elle ne reconnaît pas, ouvre la bouche et se met à lui parler. C'est le premier temps de ce dialogue. Et il va lui poser deux questions. Deux questions fondamentales. Première question, femme, pourquoi pleures-tu? Sa première question est une manière de s'approcher de cette femme, Marie, dans ce qu'elle a de plus profond à ce moment dans sa vie. Elle pleure. Femme, dit cet homme. Il la rejoint dans son humanité, dans ce qu'elle a de douleur, de souffrance, de questions, dans ce qui la travaille. Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Lui dit-il. Qui cherches-tu? C'est comme un appel que lui fait le Christ ressuscité à ce moment-là. C'est la reprise de la toute première phrase que Jésus a dite au début de l'évangile de Jean. Les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est à deux disciples de Jean-Baptiste qu'il s'adresse, un qui s'appelle André, qui veut dire homme, et à un autre dont on ne sait pas le nom. Jésus leur dit « Que cherchez-vous ? » Et ils vont devenir ses disciples. Marie entend cette même question « Qui cherches-tu ? » À cet instant, elle est appelée à devenir la première disciple d'après la résurrection. Mais c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt pour elle, parce que sa réponse montre qu'elle ne comprend pas bien ce qui se passe. Elle croit que c'est le jardinier qui lui parle. C'est normal, c'est dans le jardin. Elle ne connaît pas cet homme qui est là le matin. Elle pense que c'est le jardinier, alors elle l'interpelle, elle lui dit « Si c'est toi qui as enlevé le corps de notre Seigneur, alors dis-moi où tu l'as mis, que je puisse aller le reprendre. » Sa réponse à l'appel du Christ est une réponse qui dit sa douleur et son espérance en même temps. Où est-il que je puisse aller le retrouver? Voilà ce premier dialogue. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Si c'est toi qui l'as caché, alors dis-moi où il est, que je puisse aller le reprendre. Ce premier dialogue qui nous dit que le ressuscité est tout proche de nous. Il est tout près de Marie de Magdala. Il lui parle, elle lui parle. Il la rejoint dans ses pleurs. Il entend qu'elle ne comprend pas. Il reçoit sa difficulté à croire. Il est tellement proche qu'il peut entendre ses reproches. C'est ça le premier temps de la foi. le Christ qui est devant nous, même quand nous ne le reconnaissons pas, même quand nous ne comprenons pas que c'est lui, ce Christ qui parle à notre vie, à nos douleurs, à notre quête, et qui entend notre difficulté à le comprendre. Il est déjà là sans que nous le sachions. Et c'est le début d'un chemin de foi possible. Alors, deuxième temps de cette rencontre, deuxième dialogue, Jésus reprend la parole. Et il va dire un mot, un seul mot. C'est là que le texte bascule. C'est là que la vie de Marie de Magdala va basculer. Parce qu'il va dire le mot peut-être le plus essentiel qu'elle a besoin d'entendre ce jour-là. Jésus la regarde, ouvre la bouche et lui dit « Marie ». Jésus ne lui dit plus « femme » comme il disait juste avant. Il ne parle plus à son humanité générale, mais à elle en particulier. « Marie ». Il lui dit son nom. C'est elle qu'il rencontre ce jour-là. Vous savez que le nom, pour chacun de nous, c'est très important. Et dans la culture biblique, ça veut dire l'ensemble de la personne. Il s'adresse à ce moment-là, à elle en particulier, Marie. Alors Marie, qui jusque-là le prenait pour le jardinier, entend que ce n'est pas le jardinier. Elle se retourne, elle est déplacée, ça la bouge. Elle en est toute retournée, on pourrait dire. C'est comme si elle en était convertie. Elle sait désormais que c'est Jésus. Alors elle dit elle-même un seul mot aussi pour répondre. Elle dit à Jésus « Rabouni ». Rabouni, c'est en hébreu l'équivalent de rabbi, rabouni, rabbi, ça veut dire maître. Elle reconnaît que cet homme qui est là, ce n'est pas le jardinier, c'est son maître, celui qu'elle suivait. C'est en même temps dans sa réponse, rabouni, l'écho de la réponse qu'avaient fait les deux premiers disciples quand Jésus les avait appelés, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Quand Jésus, au tout début de l'évangile de Jean, prend la parole pour la première fois pour dire à André et à l'autre « Que cherchez-vous ?» Ils répondent « Rabbi ». Elle a entendu « Qui cherches-tu ?» Elle répond « Rabouni ». Elle est vraiment la première disciple du temps d'après la résurrection. Sa réponse dit son début de foi. Alors bien sûr, elle ne dit pas encore « Mon Seigneur, mon Dieu », comme le dira Thomas le même jour. Nous méditerons sur cette rencontre avec Thomas dimanche prochain. Elle ne dit pas encore « Mon Seigneur et mon Dieu ». Sa foi n'est pas encore élaborée, mais elle est déjà dans la présence de Jésus, qu'elle reconnaît. Voilà le deuxième temps de la foi. Ce Christ vivant qui s'adresse à chacun de nous par notre nom, qui nous connaît chacun personnellement et qui nous permet alors de le reconnaître et d'entrer dans une relation avec lui, relation qu'il initie pour que nous puissions y entrer et le suivre sur ce chemin de vie. Premier temps de ce chemin de foi, la rencontre. Deuxième temps, la reconnaissance. Et puis voilà le troisième temps, maintenant. Une troisième fois, Jésus prend la parole. Et là, il va dire une parole qui, à ce moment même où Marie est en train de s'éveiller à la foi, est une parole qui peut paraître dure. Il va lui dire « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » On pourrait traduire « Ne me touche pas » ou alors « Cesse de t'accrocher à moi. » Marie vient à peine de le reconnaître et déjà Jésus lui dit « Laisse-moi. » Ben c'est cela la foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la main sur le Christ vivant. On peut entrer dans cette rencontre, cette relation, cette reconnaissance mutuelle, mais on ne peut pas le posséder et l'attraper. On ne peut pas figer le temps. La rencontre avec le Christ vivant, ce n'est pas un rite qu'on pourrait reproduire et enfermer et manipuler. Ce n'est pas non plus un discours, une théorie, une doctrine qu'on pourrait aussi enfermer, utiliser. C'est une rencontre, c'est vivant, ça nous échappe. C'est ça la foi. C'est rencontrer le Christ vivant et en même temps ne pas pouvoir mettre la main sur lui. C'est faire le deuil de sa présence physique pour pouvoir accéder à quelque chose de bien plus profond, qui est sa présence en vérité, sa présence spirituelle, dans la foi, l'amour, l'espérance véritable. La tombe est ouverte. Ce n'est pas pour que nous nous arrêtions à ce moment-là, mais pour que nous soyons mis en route. C'est d'ailleurs ce qui arrive à Marie de Magdala, parce que Jésus prolonge sa phrase et il lui dit « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Il envoie Marie en mission. Elle ne peut pas s'accrocher à lui pour le retenir, parce qu'elle-même ne doit pas être retenue à cet endroit-là, puisqu'elle doit pouvoir l'annoncer à d'autres. Elle est la première à transmettre la bonne nouvelle. Elle va aller vers les disciples, ceux-là même que Jésus vient d'appeler « mes frères ». C'est la première fois dans l'évangile de Jean que Jésus appelle ses disciples « mes frères ». Et c'est Marie de Magdala qui est chargée de les appeler ainsi. Mes frères, mes sœurs, cette relation de fraternité avec le Seigneur. Marie ne peut pas garder ça pour elle, elle ne peut pas garder Jésus pour elle. Elle est appelée à dire aux autres, vous êtes frères et sœurs de ce Jésus ressuscité. C'est un mouvement. Et dans ce troisième temps de dialogue, elle ne répond pas directement. En tout cas, le texte ne nous dit pas une phrase qu'elle dirait à ce moment-là. Sa réponse, elle l'a dit autrement. Elle a dit en partant justement pour annoncer aux autres ce que le Christ vivant vient de lui dire d'annoncer. Sa réponse, c'est sa mise en mouvement et c'est l'évangile qu'elle partage avec les autres. Elle s'en va et elle devient messagère de Dieu. Dans la tombe, elle a vu des anges, des messagers. En grec, c'est angelos, un ange. Et la fin du récit nous dit, elle s'en va pour annoncer, elle s'en va angelousa. C'est le même mot. C'est elle qui devient messagère du Seigneur. Voilà, elle venait pour accomplir un rite et elle n'a pas pu. Elle avait peut-être envie d'avoir une explication rationnelle. Ce n'est pas donné. C'est bien plus profond. Une rencontre, un dialogue, une mise en mouvement. Alors on ne sait pas si elle a tout compris ce jour-là. On ne sait pas combien de temps ça a mis pour qu'elle le comprenne vraiment. On sait simplement qu'elle a été saisie, qu'elle a été mise en route et que première disciple du Christ ressuscité, elle est devenue en même temps sa première missionnaire, sa première envoyée, sa première apôtre. Est-ce que nous avons tout compris? Sans doute pas. Nous sommes en chemin. Alors laissons les rites et les discours logiques, laissons-nous entraîner dans une rencontre qui nous rejoint là où nous en sommes, qui écoute nos pleurs, nos reproches, qui nous rejoint dans notre vraie personne, dans notre vraie vie, qui nous relève et qui nous envoie le partager. Oui, Pâques, c'est cela, une rencontre avec le Christ vivant qui nous met en route, frères et sœurs du Seigneur. Comme Marie de Magdala dans le jardin au matin de Pâques, puissions-nous maintenant, chacun, recevoir les mêmes paroles qu'elle a reçues, celles que Jésus nous dit à nous maintenant. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Marie ou Christian, enfin chacun met son prénom à cet endroit-là. Ne t'accroche pas à moi qui monte vers le Père, mais va vers mes frères et sœurs et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Amen. À ce moment-là du déroulement du culte, nous avons habituellement la Sainte Cène. Et vous avez vu qu'il n'y a pas la Sainte Cène préparée, et certains se disent peut-être, mais quand même, le dimanche de Pâques. Alors le bureau du conseil presbytéral, qui était réuni mardi soir, a pris la décision que nous ne célébrerons pas la Cène aujourd'hui. Cette décision a été prise par souci de responsabilité, au vu de l'évolution de la diffusion du virus en ce moment à Paris. Aussi en pensant à plusieurs de notre paroisse qui, ces derniers jours, sont touchés par ce virus, parfois de manière dramatique. C'est dans un souci de responsabilité que nous avons trouvé que c'était trop risqué sanitairement. C'est aussi dans un souci de solidarité avec tous ceux qui sont plus fragiles parmi nous, ceux qui sont marqués par la maladie ou par les conséquences psychologiques, sociales, économiques, par tous ceux qui se battent au jour après jour pour accompagner ces situations-là. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un manque de ne pas communier chaque dimanche, et sans doute en particulier ce dimanche de Pâques. Mais alors ce qu'on peut faire, c'est se dire que c'est une occasion de nous rappeler, en ce temps exceptionnel, que les premiers témoins de la résurrection, au matin de Pâques, n'ont pas célébré la scène. Ils étaient encore trop dans la stupeur, dans l'étonnement, ils n'étaient pas vraiment préparés. Ils étaient pris dans un mélange de tristesse, de stupeur, de joie, de confiance, tout ça mêlé. C'est que le soir du jour de Pâques, que les premiers ont pris le repas avec les seigneurs vivants, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais ils l'ont fait après un long cheminement avec le Christ. Alors c'est l'occasion pour nous, peut-être, de nous trouver sur ce chemin d'Emmaüs, d'être encore sur ce temps du cheminement. Nous savons, nous avons entendu que le Christ est ressuscité, mais nous avons encore ce chemin où il marche avec nous, mais où nous cherchons encore à comprendre et à en vivre. Et nous savons que viendra le soir, la halte, le moment du repas partagé, quand le pain sera rompu et la coupe partagée à nouveau entre nous. Ça sera un vrai jour de fête, ce jour-là. En attendant, je vous invite à prier. Il est bon maintenant, Dieu notre Père, de tourner nos cœurs vers Jésus le Christ qui nous rejoint, comme on passe pour une naissance. Il vient dans le sable de nos chemins questionner ce qui nous fait mal et ce qui nous retient dans le passé. Il nous donne de parler de ce que nous avions cru comprendre, de ce que nous avons espéré. Présence invisible mais sûre qui recueille le poids de ce que nous portons. Dans le matin qui se lève, aux mots boueux de notre fatigue, il accroche une parole de lumière qui deviendra pain rompu et partagé. Présence invisible mais sûre qui brûle au cœur de nos cœurs. Et le chemin devient plus clair, les cailloux plus doux. Non qu'ils aient disparu, mais ils ne blessent plus comme avant, car quelqu'un est là qui nous emmène vers plus de légèreté. Présence invisible mais sûre qui souffle ta vie en nos vies. Pour le chemin qu'il ouvre sous nos pas, pour la communauté que nous formons, pour le monde qu'il nous donne à aimer, nous pouvons te dire, ô Père, merci. Ce merci de louange par lequel nous rejoignons le chant de toute l'Église. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Seigneur, en ta victoire, tu as vaincu la mort ».
Thank you.
Quelques très rapides informations sur notre vie d'église. Bienvenue d'abord à tous ceux qui sont là parmi nous ce matin de passage. Vous êtes ici comme chez vous et vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous avez une petite feuille bleue qui vous a été distribuée à l'entrée. On va peut-être demander s'il y a des gens qui arrivent pour 10h30 d'attendre dehors. Ceux qui sont déjà là, on ne va pas les chasser, mais les suivants, pardon. Sur la petite feuille bleue, vous avez quelques informations sur les événements dans les temps à venir dans notre église. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que les activités de catéchèse ne peuvent plus être en présentiel depuis les annonces gouvernementales de cette semaine. Donc ça aura lieu soit par Zoom pour le caté samedi prochain, les animatrices verront pour les groupes qui se réunissent sinon le jeudi ou le dimanche, selon quelle modalité cela sera fait jusqu'à ce que l'on puisse de nouveau. Je vous rappelle que nous avons aussi les samedis rue Madame, chaque samedi à 16h, nous nous retrouvons pour un temps de recueillement, de prière, de chant autour de l'évangile de Marc dans la chapelle de la rue Madame. Je laisse la parole quelques instants à Jean-Michel Ullmann, membre du Conseil presbytéral.
Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous quelques nouvelles du Conseil presbytéral, sa dernière réunion qui s'est tenue en mars dernier, qui s'est réuni en visioconférence. Il a débuté sa séance par une prière avant d'aborder essentiellement quatre sujets. Le premier concerne le prochain thème du synode national. Dans la perspective des synodes nationaux de mai 2022, 2023 et 2024, les conseillers presbytéraux sont invités par le Conseil national de l'EPUDF à travailler sur le thème mission de l'Église et ministère. La deuxième nouvelle est sur l'état des lieux et des travaux dans nos chapelles. Le Conseil presbytéral a salué la qualité et la quantité du travail de Jean-Yves Muller et de la commission travaux, ainsi que sa présentation dynamique et précise de l'état des lieux. En 2020, pour des raisons financières, nombre de travaux ont dû être différés, à l'exception toutefois de la sécurité incendie rue Madame. La remise en état de l'orgue de la rue Madame sera effectuée grâce à un don affecté et nous nous en réjouissons. Troisième point, bilan des deux premiers samedis rue Madame. Les animateurs se réjouissent et soulignent l'accueil, l'ambiance intime et bienveillante dans laquelle se déroule ce partage tous les samedis depuis le 6 mars, de 16h à 17h, nous insistons sur l'engagement et la sensibilité des improvisations de Peter Vizard au piano, qui contribuent largement à la qualité de ces rencontres, à la qualité et au plaisir de ces rencontres. Quatrième point, élection d'un nouveau secrétaire du Conseil presbytéral, Jean-Michel Ullmann, ici présent, avait accepté la charge de secrétaire du Conseil presbytéral à titre d'intérim et il m'a dit avoir souhaité être déchargé. Charlotte Perrin, qui est par ici, Charlotte peut se lever, s'est proposée pour remplir cette mission. Elle a été élue secrétaire du Conseil presbytéral à l'unanimité. Enfin, deux points encore. Sachez déjà que le prochain culte de rentrée aura lieu le 19 septembre, notez-le. Et enfin, après des années de bons, loyaux et dévoués services, Nicole Mulot-Calvino, rue Madame et Edith Elitch à Pantemont cesseront leur mission de maîtresse de maison au mois de juin. Le conseil aura alors trouvé des remplaçantes ou pourquoi pas des remplaçants. Avis aux amateurs. Je vous remercie de votre attention et joyeuse Pâques.
Et merci Jean-Michel pour l'intérim que tu as assuré au secrétariat du Conseil. Je voudrais encore vous dire que pour sortir dans quelques minutes, quand le culte se terminera, puisque nous enchaînons avec un autre culte à 11h, nous vous demandons de sortir par votre droite, et puis pas par la porte principale, mais par la petite porte de côté. Il ne s'agit pas de sortir en douce et en catimini, mais de se retrouver directement dans la rue pour porter la bonne nouvelle de Pâques. Ça permet aussi, de manière très pragmatique, à ceux qui arrivent, d'entrer sans croiser ceux qui sortent. Merci pour votre compréhension. Merci à Isabelle qui tient l'orgue ce matin et que nous allons écouter maintenant pendant que notre offrande est recueillie.
Jésus, notre Seigneur, tu nous invites à prier ensemble et à prier aussi les uns pour les autres. En ce matin de Pâques, tu nous fais sentir, comprendre et peut-être accepter que d'un mal peut sortir un bien, que le mal et la mort n'ont pas le dernier mot. Tu as été rejeté, crucifié, mais la pierre devant ton tombeau a été roulé, est écarté. Tu es devenu pierre d'angle et tu fais de nous des pierres vivantes, des témoins de ton Église. Nous te prions pour nous tous et pour tous les chrétiens sur la terre entière, pour tous les croyants aussi, et pour celles et ceux aussi qui ne connaissent pas Dieu, de pouvoir vivre la rencontre avec les autres, quels qu'ils soient, dans la joie de Pâques, et de passer de la crainte à la confiance, du conflit à la paix, de la fermeture à l'ouverture, du repli à l'échange fécond. Nous te prions pour les responsables de ton Église, afin qu'ils célèbrent dans la joie de Pâques et soient fortifiés dans leur témoignage. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent pour la justice et la paix et soient encouragés dans leurs actions par la joie de Pâques. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, afin que le message de vie de Pâques soit pour elles aussi secours et réconfort. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Oui, Seigneur, malgré nos crises, malgré nos tristesses, malgré nos deuils, nos échecs, nos limites, malgré l'horizon qui ne semble bouché, pour chacune, pour chacun d'entre nous, comme pour le monde entier, nous avons l'audace tranquille de te demander que dans nos cœurs et dans nos esprits, et même sur nos visages, éclate notre espérance et triomphe notre confiance. Alléluia. Et nous disons ensemble d'une seule voix la prière qui dit l'essentiel de nos demandes selon l'enseignement de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tu viennes, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
Alléluia. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Le Christ est vivant, nous l'avons rencontré, nous sommes en chemin avec lui, nous sommes témoins pour le monde entier de la joie qu'il nous donne de vivre et de partager. Alors qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et nous chantons à toi la gloire.
Oh, Jesus, you are my God.
bon dimanche de Pâques et bonne vie avec cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Je vous invite à vous précipiter dehors pour partager la bonne nouvelle et laisser rentrer les nouveaux.